VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par les violences xénophobes en Afrique du Sud. Pretoria a fermé temporairement au Nigeria son ambassade à Abuja et son principal consulat à Lagos après avoir reçu des menaces de représailles suite aux attaques xénophobes meurtrières de ces derniers jours en territoire sud-africain. La fermeture a commencé hier et continue en principe ce jeudi. Les réactions étaient très vives au Nigeria face aux violences en Afrique du Sud contre les étrangers africains. Alors que le gouvernement nigérien exige la fin immédiate de ces attaques xénophobes, certains Nigériens ont déjà commencé à s'en prendre aux Sud-Africains vivant au Nigeria. Le point avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja, la capitale nigériane.
La tension monte entre les deux géants du continent suite aux attaques xénophobes contre les Nigériens vivant en Afrique du Sud. Le Nigeria prend très au sérieux les attaques contre ses citoyens et a rappelé son ambassadeur à Pretoria. La sécurité a été renforcée ce mercredi au Nigeria suite aux attaques de représailles contre les entreprises sud-africaines dans le pays. La situation est particulièrement tendue à Lagos, la capitale économique, où le supermarché sud-africain Shoprite a été vandalisé par des jeunes Nigériens en colère. Une colère perceptible dans les rues de la capitale Abuja.
Nous avions beaucoup contribué à leur indépendance. Mais comment peuvent-ils nous traiter de la sorte? Et personne ne détient le monopole de la violence.
Je suis vraiment triste parce que ce qu'ils font n'est pas juste. Les Sud-Africains vivent librement chez nous. Par contre, eux, ils ne veulent pas nous laisser vivre en paix dans leur pays. Cela est très mauvais. Donc, ils doivent changer pour donner la chance à la paix.
Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Cameroun voisin, Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, doit être jugé vendredi par un tribunal militaire. Le leader du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est accusé notamment d'insurrection et d'hostilité contre la patrie. Des accusations pouvant entraîner la peine de mort, Ekiabadou.
Maurice Kamto est poursuivi pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion. Il risque la peine de mort même si elle n'est plus appliquée dans ce pays. Plusieurs dizaines de ses alliés politiques et partisans devront comparaître en même temps que lui demain, vendredi. Ancien ministre délégué à la justice, M. Kamto, 65 ans, a été arrêté fin janvier avec plus de 150 partisans à la suite d'une marche lancée par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC conteste les résultats de présidentielle d'octobre 2018 qui ont donné Paul Biya vainqueur d'un septième mandat. En mars, les États-Unis ont déclaré qu'il serait sage de libérer M. Kamto. L'Union européenne avait aussi parlé de procédures disproportionnées à l'encontre des opposants. Longtemps silencieuse, la France ancienne puissance coloniale est finalement sortie de son mutisme à la fin mai pour réclamer la libération des opposants. De son côté, l'ONG Human Rights Watch dénonce une initiative politiquement motivée visant à juguler la dissidence.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé mercredi un nouveau gouvernement sans grand changement, dominé par sa formation politique et marqué par la création d'un ministère de la Sécurité et de la Protection civile à un an de la présidentielle. Les détails avec Bagassi Koura.
La nouvelle équipe comprend 41 ministres contre 36 dans le précédent et 7 secrétaires d'État contre 5. Le général Vagondo Diomandé, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, devient ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Adama Koulibaly devient le grand argentier. Il remplace Adama Koné, nommé ministre auprès de la présidence chargé des affaires économiques et financières. Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture pendant une dizaine d'années, quitte son poste. Il est remplacé par Kobena Kwasi Adjoumani, auparavant ministre des Ressources animales et halieutiques. Ce remaniement intervient en plein débat sur la nouvelle commission électorale censée organiser l'élection présidentielle de 2020. Ce scrutin s'annonce tendu 10 ans après la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Droits de l'homme au Burundi, la commission d'enquête de l'ONU sur ce pays de la région des Grands Lacs fait état d'un climat de peur à moins d'un an des élections générales de 2020. Dans un rapport qui sera présenté le 17 septembre devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, cette commission décrit comment des autorités locales burundaises et des Imbonera Kure, les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, intimide la population burundaise. John Lindon a joint à Genève Doudou Diène, président de cette commission d'enquête sur le Burundi.
Il y a un climat de peur parce que c'est un contexte préélectoral et nous savons que l'histoire du Burundi confirme que les violations les plus graves des droits de l'homme sont liées à ça. Et ce que nous avons déjà documenté dans notre rapport précédent, c'est la persistance des violations des droits de l'homme et toutes les informations que nous avons recueillies, et nous avons fait des enquêtes depuis maintenant des semaines et des mois, indiquent que ces violations-là continuent, persistent. Ce que nous voulons mesurer, c'est est-ce qu'il va y avoir une aggravation à cause du contexte électoral.
Vous parlez de la persistance d'une violation des droits de l'homme au Burundi, mais l'ONU n'est pas autorisée à faire des enquêtes là-bas. Comment vous procédez?
Nous procédons d'une manière classique. La méthode utilisée est de recueillir l'information à toutes les sources les plus crédibles possibles et les recouper. Alors nous les recueillons auprès de qui? D'abord, les contacts électroniques et autres avec le peuple burundais sur place. Deuxièmement, avec la diaspora, utiliser le mot burundais, c'est-à-dire le mot classique, tous les Burundais qui sont à l'extérieur, organisés en ONG, en association, etc., et qui, eux, sont en lien direct avec le pays, leur famille, leurs relations, qui sont informés. Nous savons aussi toutes les informations que peuvent nous donner les partenaires du Burundi, c'est-à-dire à la fois les partenaires bilatéraux, mais parce qu'ils peuvent fournir des informations objectives, mais les ONG internationales, comme Amnesty, qui font des enquêtes et qui ont aussi des contacts dans le pays, qui publient des rapports réguliers, et enfin les médias.
Le gouvernement burundais pourrait vous répondre que c'est un acharnement, il y a mieux à faire ailleurs, non?
Non, ils l'ont dit. Je crois que ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons trois mandats fondamentaux que nous remplissons. Un, c'est de documenter d'une manière objective et rigoureuse et précise les violations des droits de l'homme. Nous l'avons fait dans nos deux rapports précédents, nous allons continuer à le faire. La deuxième, c'est d'analyser si ces violations-là constituent des crimes contre l'humanité. Troisièmement, nous devons identifier les responsabilités de ces violations des droits de l'homme et enfin formuler des recommandations.
Ça fait des années que l'ONU fait des rapports sur les droits de l'homme et après, quels résultats? Qu'est-ce que vous prenez comme action?
Je vous dirais que la question, vous devriez la poser au Burundi. Posez-la aux organisations non gouvernementales burundaises, à l'intérieur ou à l'extérieur. Eux, ils savent que l'analyse que nous faisons, l'identification des responsabilités et autres, donne un tableau extrêmement précis de la situation. Demandez aux pays membres des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme, des États-Unis, aux pays africains et autres. Ils vous diront que nos rapports leur servent d'information pour élaborer non seulement leur stratégie et leur rapport avec le Burundi, mais également en ce qui concerne les droits de l'homme en général. Notre rapport est un rapport absolument crédible. La transformation finale maintenant ne dépend pas de la commission d'enquête.
Doudou Diène, président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, joint à Genève en Suisse. Tournée du pape François en Afrique australe, le souverain pontifète au Mozambique, première étape de son périple dans trois pays de la région, qui le conduira ensuite à Madagascar et à l'île Maurice. Dans son premier discours, depuis son arrivée à Maputo, la capitale mozambicaine, le chef de l'Église catholique a salué aujourd'hui l'accord de paix signé récemment dans le pays. Des propos tenus devant le président mozambicain Philippe Nyusi et Ossoufé Momade, le leader de la RENAMO, l'ex-mouvement rebelle. Le pape François est à Maputo depuis hier soir, Irénée Hermanongo.
Sur le tarmac de l'aéroport international de Maputo, le pape François a été accueilli par le président mozambicain Philippe Nyusi. De nombreux fidèles qui scandaient « Vive notre pape François » s'étaient massés à l'aéroport tentant d'apercevoir le Saint-Père avant qu'il ne parte pour le centre-ville. C'est un moment très spécial. Être ici est un grand honneur, a lancé Katharina Singine, une Mozambicaine de 29 ans. J'espère que cette visite nous apportera une vraie paix, nourrie de son côté Arnaldo Menezes, un étudiant de 25 ans. La visite du pape dans l'ex-colonie portugaise à majorité chrétienne intervient un mois après la signature d'un accord entre le gouvernement. Le pape se rendra vendredi à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, et doit conclure sa deuxième tournée sur le continent africain dans l'île Maurice où il est attendu lundi.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.